VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est midi à N'Djamena, Soudan du Sud. Cette fois, serait-elle la bonne? Après plusieurs jours d'atermoiements qui ont provoqué l'exaspération de la communauté internationale, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar devrait enfin arriver aujourd'hui à Juba pour y prendre ses fonctions de vice-président dans le cadre d'un processus de paix destiné à sortir le pays d'une guerre civile. Machar était initialement attendu le 18 avril dans la capitale sud-soudanaise, mais son retour à chaque jour était repoussé, la rébellion et le gouvernement ne parvenant pas à s'accorder sur les détails comme la quantité d'armes que la garde rapprochée de M. Machar pouvait emporter avec elle dans la capitale. Au Niger, la force mise en place dans le bassin du lac Tchad pour lutter contre Boko Haram est en cours de consolidation. Le général Lamidi Adewoshum, à la tête de cette force, a fait le point sur l'avancée des travaux lors d'une conférence de presse à laquelle a assisté notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa.
À Niamey, le commandant de la force est venu faire le point aux autorités des actions menées par cette force depuis janvier, date de son opérationnalisation. Commandant Lamidi Adewoshun.
It took some time before the forces were welded together.
Le démarrage a été laborieux, mais aujourd'hui toutes les forces sont déployées et elles sont opérationnelles. Je commencerai par le Niger. Nous avons Adifa, le PC du sous-secteur 3, qui est co-localisé avec le PC de l'opération NGA. Ce sous-secteur travaille en collaboration avec le secteur 3 qui est basé à Baga au Nigeria. Vous êtes tous sans ignorer les prouesses du secteur 1 qui chaque jour lutte en bonne coopération et coordination avec les opérations nigériennes
de l'Opération NGA, which is also deployed to fight the menace of Boko Haram.
Tout se passe bien, donc, a semblé dire le commandant Lamidi, même si la force attend encore des moyens.
In concrete terms, the pledges are there.
Sur le soutien logistique de la force, je tiens à vous dire qu'il y a eu, après les différentes réunions, plusieurs engagements, des engagements pour un soutien, mais rien de concret n'a été fait. Tout ce que nous avons reçu au niveau de la force, c'est les moyens de communication et 11 véhicules. Même vous, les journalistes, vous auriez voulu avoir pour faire votre travail, mais vous le faites quand même avec le minimum qui est à l'autre. Donc mes forces ont le minimum et font avec le minimum qu'ils ont à disposition pour
assister people. Even outside the immediate environment, out of what is not enough.
Selon le concept de cette force mixte, le soutien est national, c'est-à-dire que ce sont les pays engagés qui soutiennent leurs troupes. Le même concept prévoit un soutien additionnel à la dite force. Et c'est ce soutien que l'Union africaine devait mobiliser qui tarde depuis bientôt 4 mois. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Dans le nord du Nigeria, les chrétiens subissent des violences continues. C'est ce que dénonce l'ONG Portes Ouvertes en donnant le chiffre de 4028 chrétiens tués dans le seul pays du Nigeria en 2015. Mélisse Hegel.
Portes Ouvertes évoque même une menace pour la survie de l'Église dans le nord du Nigeria. Pour cette ONG, les élites musulmanes du nord veulent préserver leurs intérêts. Les islamistes radicaux comme Boko Haram s'attaquent aux chrétiens. Berger Peul musulman, que la désertification oblige à migrer, entre en conflit avec les populations chrétiennes. Quant aux autorités fédérales et locales, elles sont accusées de détourner les yeux sur ces discriminations et violences, alors que la charia est appliquée dans 12 États du nord du pays. Depuis l'année 2000, dans le monde, quelque 1,3 million de chrétiens ont été déplacés et plus de 13 000 églises ont été détruites, fermées de force ou abandonnées. L'Afrique est le deuxième foyer de persécution mondiale et même le premier en termes de chrétiens tués, en particulier au Nigeria.
La justice gambienne a décidé de maintenir en détention près de 40 opposants arrêtés à la mi-avril et accusé notamment de rassemblement illégal. Au total, 37 personnes, dont le chef du Parti démocratique uni, l'UDP, principales formations de l'opposition sont inculpées de 6 chefs d'accusation, dont rassemblement illégal et incitation à la violence selon des sources judiciaires. 5 des prévenus n'ont cependant pas comparu à l'audience hier devant la Haute Cour de justice à Banjul. Aucune explication n'a été fournie à leur absence. 18 des accusés ont été arrêtés le 14 avril, y compris un haut responsable de l'UDP, Solo Sandeng, lors d'un rassemblement pour réclamer des réformes politiques en Gambie, rassemblement dispersé par les forces de sécurité. La France est dite aujourd'hui prête à aider le gouvernement d'Union nationale libyen à assurer sa sécurité maritime, a déclaré le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. La déclaration de la France intervient au moment où le gouvernement d'Union nationale libyen a pris hier le contrôle de plusieurs ministères à Tripoli, dont celui des Affaires étrangères, des Transports, des Affaires sociales, de l'Habitat ou de la Jeunesse et des Sports. Un nouveau pas pour asseoir l'autorité de la nouvelle administration dans le pays.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Primaire cruciale aujourd'hui dans 5 États des États-Unis. La démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump espèrent donner le coup de grâce à leurs rivaux respectifs dans la course à la Maison-Blanche. Jacques Aristide.
Les primaires de ce mardi vont se dérouler dans le Connecticut, Delaware, Maryland, la Pennsylvanie et Rhode Island. Hillary Clinton, qui souhaite devenir la première femme à occuper le bureau ovale, est confrontée à la ténacité du sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Mais l'ex-secrétaire d'État devrait aujourd'hui creuser l'écart en nombre de délégués. Côté républicain, le milliardaire Donald Trump figure en tête des sondages dans ces 5 États. Même s'il mène largement, son populisme dérange au sein du parti républicain et certains complotent pour l'écarter. Justement, coup de théâtre hier, ses rivaux Ted Cruz et John Kasich ont conclu un pacte pour lui faire barrage, c'est-à-dire empêcher Donald Trump d'arriver avec la majorité absolue de 1237 délégués à la convention de juillet à Cleveland et favoriser ainsi la tenue d'une convention négociée où le parti républicain pourrait choisir un autre candidat que Trump. Un effort tardif toutefois, d'après des observateurs.
Au moins 19 civils ont été tués et 120 autres blessés hier dans des bombardements rebelles contre des quartiers tenus par le régime à Alep dans le nord de la Syrie. Les détails, John Lydon.
Ce bilan fait suite à des obus tirés par les rebelles sur plusieurs quartiers sous contrôle du régime. C'est ce qu'a affirmé Rami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon l'OSDH, 4 personnes, dont un enfant, ont également péri dans les tirs des forces loyalistes sur les quartiers rebelles dans l'est d'Alep. En outre, des combats sporadiques ont opposé les troupes fidèles au régime à des rebelles et islamistes dans plusieurs quartiers de la ville. C'est dans ce climat que le président Barack Obama a annoncé hier en Allemagne l'envoi de 250 militaires américains supplémentaires en Syrie pour soutenir la lutte contre le groupe État islamique. Ces membres des forces spéciales auront pour mission de conseiller et d'assister des groupes rebelles syriens et les forces qui combattent Daesh en leur fournissant, entre autres, du matériel et des renseignements. Ces militaires supplémentaires vont rejoindre la 50aine de soldats américains d'élite qui sont déjà sur le sol syrien.
Et des milliers d'Irakiens se sont de nouveau rassemblés aujourd'hui à Bagdad pour réclamer des réformes politiques à l'appel de l'influent dirigeant chiite Muqtada Sadr dans un contexte de tensions politiques persistantes. Cette nouvelle manifestation accroît la pression sur le premier ministre Haider al-Abadi qui tente depuis des semaines de nommer un nouveau gouvernement pour réduire l'incurie et le clientélisme de la classe politique irakienne. La Corée du Nord prépare une seconde tentative d'essai de tir de missile à moyenne portée après l'échec cinglant d'un premier lancement il y a 10 jours. Des sources à Séoul disent capter des signaux qui montrent que la Corée du Nord va probablement, vraisemblablement lancer un missile Musudan dans un avenir très proche. Le missile Musudan aurait une portée située entre 2500 et 4000 kilomètres, ce qui rendrait vulnérable la Corée du Sud et le Japon, mais aussi l'île américaine de Guam dans le Pacifique où se trouve une base militaire. Et je l'ai dit en début de journal, Soudan du Sud, cette fois, serait-elle la bonne après plusieurs jours d'atermoiements qui ont provoqué l'exaspération de la communauté internationale. Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar devrait enfin arriver ce mardi à Juba pour y prendre ses fonctions de vice-président dans le cadre d'un processus de paix destiné à sortir le pays d'une guerre civile dévastatrice. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Henri Francis. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.